Bonjour à tous. La semaine dernière, nous avons vu comment, grâce au témoignage des 110 personnalités interrogées, Emmanuel Macron avait gravi très rapidement les marches de la politique. Avec la même volonté et le sérieux qui les caractérise, Gérard Davet et Fabrice Lhomme, tous deux journalistes d'investigation pour Le Monde depuis le début des années 2000, offrent dans leur livre enquête « Le traître et le néant » toute la vérité sur l'idéologie du groupe En Marche et la manière de gouverner du chef actuel de l'État. Et le constat est édifiant. Au fur et à mesure de notre enquête, aux apparences de portraits chinois, disent-ils, s'est dessiné un homme en phase avec l'idéologie libérale, au sens européen plus qu'américain du terme, seul ciment d'un mouvement plus liquide que solide. Un homme, enfin, capable de s'adapter en permanence aux circonstances en fonction de ses intérêts. En somme, un parfait pragmatique, pour ne pas dire un pur cynique. Pour Aurélien Taché, ce qui prédomine, c'est un fond de conviction libérale. Mais ce n'est pas quelqu'un de suffisamment idéologue et de suffisamment politique pour véritablement faire passer ça avant les considérations très pragmatiques, très tactiques. C'est ce qui ressort de toute cette aventure. Macron, il n'est rien. C'est un déguisement successif. Il est tout à la fois successivement un transformiste. À court terme, c'est une habileté et un tempérament. Mais à long terme, c'est destructeur. Sur les 5 années de macronisme, les dossiers et les affaires se succèdent. Les personnages sans expérience de la vie populaire et politique décident sur un coup de tête, ou presque, comment régler les problèmes. Alexandre Jardin a étudié le profil des nominations de conseillers au cœur de l'exécutif. Il en tire un sentiment amer. En gros, il n'y avait personne ayant vécu, juste des promotions de crâne d'œuf. La boutique est toujours tenue par l'appareil d'État. Borloo abonde. Ce sont des fermiers généraux qui ont pris le pouvoir, cingle-t-il souvent en petit comité. Macron n'aime pas l'échange, assure-t-il à ses amis. Ça l'inquiète. Ça reste un collé à Normal Sup. Il n'a pas confiance en lui. Je pense qu'il y a une très mauvaise compréhension du fonctionnement du pays, nous explique François Barouin, convaincu que les tenants du Nouveau Monde recyclent en réalité de vieilles recettes, totalement périmées. Il dénonce ainsi un logiciel du fonctionnement de l'État qui a 40 ans d'âge. Je pense que ces mecs, ils ont 40 ou 50 ans de retard parce qu'ils pensent qu'ils sont à la tête d'un État qui a tous les pouvoirs. C'est un État qui n'a plus de pouvoir, qui est obèse à Paris et qui est squelettique dans les territoires. Et François Barouin de préciser, Macron a pour lui, au fond, toutes les qualités qui sont nécessaires pour ce type de job à l'heure actuelle. C'est un être attaché à rien ni personne, un être lesté par aucune contrainte, à l'exception de sa relation avec son épouse. Mais puisque son premier gouvernement l'empêche d'agir comme il veut, Emmanuel Macron congédie Édouard Philippe et nomme à sa place un personnage plus creux encore, qui deviendra rapidement le va-t-en-guerre du président, notamment pendant la période Covid. C'est lui qui va au front et annonce les méchantes mesures sanitaires. Tout au long de l'année 2020, c'est d'abord le conseil scientifique qui va donner le ton en publiant régulièrement ses avis, avec un Delfrécy ultra présent dans les médias, précis, didactique. Et puis, très vite, le pouvoir va lui demander de se taire, de différer la publication de ses avis. Notamment à l'automne 2020, où, après un été de tous les délires plaisirs, le virus s'apprête à terrasser la France, une nouvelle fois. Le professeur Delfrécy le sait, le sent. Il alerte l'exécutif. En pure perte. Les données étaient claires à l'époque, avec un temps de doublement des cas en 4 jours, 5 000 cas chaque jour, puis 10 000 et enfin 40 000 fin octobre. C'était écrit en septembre, l'arrivée de cette deuxième vague. Il faut en effet se souvenir du psychodrame du mois de janvier 2021. Le 29, le conseil scientifique pond un avis très clair, recommandant un confinement strict sur une période de 4 semaines à partir de début février. Un confinement strict en février permet de gagner du temps, explique encore le conseil scientifique. Le jour même, le Premier ministre Jean Castex, apparemment très agacé, n'annonce pourtant que des demi-mesures, clairement à l'encontre des recommandations de l'avis du conseil scientifique, qui du coup ne sera publié que le 24 février 2021, un mois plus tard. C'est Emmanuel Macron qui, ce jour-là, comme tous les autres, a imposé sa volonté. Et c'est bien ce coup humain qui attriste l'infectiologue Karine Lacombe. « Est-ce qu'on aurait pu éviter ces morts » dit-elle. « Ah oui, c'est clair, bien sûr. Je pense qu'on a sacrifié 400 morts par jour par ce type de décision. si on avait confiné fin janvier pour 4 à 6 semaines, comme on le demandait, bien sûr qu'on aurait eu moins de morts. Sans oublier cette découverte ahurissante le 2 juin 2021 par les trois magistrats enquêteurs de la Cour de justice de la République. Des cartons à perte de vue dans l'un des bâtiments de Santé publique France. Dans ces cartons, des millions de masques qui auraient pu être utilisés dès le début de la pandémie. Les masques, c'est le péché originel, comme le nuage de Tchernobyl, rappelle William Dabb à la tête de la Direction générale de la Santé entre 2003 et 2005. Pour repérer les masques chirurgicaux et autres équipements usés, il suffit pour les juges d'utiliser le système informatique qui allonge automatiquement leur délai de péremption au 31 décembre 2099. Il y en a des centaines de milliers. Et une évidence s'impose pour les enquêteurs. Une bonne partie de ces masques aurait pu, et même dû, être distribués début 2020, quand les morts s'accumulaient déjà, faute de protection. Ces masques n'étaient alors tout simplement pas périmés. Aujourd'hui encore, l'enquête sur la gestion de la crise Covid se poursuit et c'est déjà plus de 60 tomes de documents qui alimentent le dossier d'instruction. Mais cette politique macronienne, qui n'est qu'une chimère électorale, qui n'aura servi finalement qu'à faire imploser tous les partis politiques et à renforcer l'incompréhension par le peuple de ce microcosme d'élite pensante en brouillant les pistes et repères traditionnels qui structuraient la vie politique française depuis le début de la Ve République. Ce macronisme, disais-je, n'est rien sans Macron, puisqu'il n'y a aucune idéologie dans ce faux mouvement, juste la volonté et l'ambition d'un homme de gouverner. Gouverner un pays avec un tableau Excel comme on le ferait pour tenir un compte bancaire. Éric Ciotti, le député LR de Nice, a la conviction d'avoir affaire avec Macron à un politicien sans scrupules ni charpente idéologique. Le macronisme, dit-il, n'existe pas. C'est une absence de conviction, d'idées, une mise en scène et une communication permanente. Comme chez le serpent, la colonne vertébrale du macronisme semble n'être que circonvolution. Quant au père fondateur de Macron, Jacques Attali annonce clairement que le macronisme, c'est une modernisation de la circonstance pro-européenne, très engagée, libérale et optimiste, avec le sentiment que le succès des uns entraîne le succès des autres. Ça correspond au centre droit d'une France moderne, qui n'est pas forcément toute la France réelle, même s'il a quand même beaucoup appris. Parce qu'il s'est beaucoup promené, il a vu ce que c'est que la France des campagnes, il a vu beaucoup de choses qu'il ne connaissait pas. Nos deux journalistes terminent en rappelant que, à l'été 2021, sur 401 promesses de Macron, 68 avaient été tenues. Pour un candidat qui promettait la révolution dans son livre-programme, on est loin du compte, très loin même. Le mot de la fin est donné à son prédécesseur, François Hollande, parce qu'il l'a placé le satellite Macron en orbite, ce dont il ne se remettra sans doute jamais. Il y a un mécontentement sourd qui est là, mais comme il n'y a pas de débouché politique, on est dans le néant. Pour conclure, il apparaît à l'aune de cette lecture que Macron à la présidence de la France, c'est comme un môme de 6 ans à la tête d'une maison d'édition. Il met tous ses meilleurs potes sur les sièges les plus prestigieux, il publie des livres parce que les couvertures sont trop jolies et quand il s'ennuie, il fait des avions en papier avec les pages de l'encyclopédie Universalis. En refermant cet ouvrage, je me suis dit qu'il devrait y avoir un livre comme celui-ci sur tous les hommes politiques de l'Hexagone. Cela relève de l'utilité publique.